Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour, la vie continue, on va se changer les idées. Cette émission de ce vendredi 23 mars va faire plaisir à beaucoup de monde et cela pour trois raisons. D'abord parce que nous sommes vendredi et que la perspective d'une bonne nuit réparatrice nous ravit. Oui, le vendredi, on est ravis au lit. Ensuite parce que pendant une heure, exceptionnellement, il ne sera pas question de mai 68. Vous, je ne sais pas, mais moi les commémorations, je sature. Je ne sais pas ce qu'on a dans ce pays, mais j'ai l'impression qu'on passe notre vie à commémorer. Le 95e anniversaire du démon de Peneux, les 50 ans du printemps de Prague, les 40 ans de la disparition de Claude François, le bicentenaire de Line Renault, les 80 ans de la SNCF, la prise de l'as malade Abdelkader par les troupes du duc d'Aumale, le premier pas de l'homme sur la lune, la première tarte à la crème de Bernard-Henri Lévy, le 20e anniversaire de la victoire de la France à la Coupe du Monde de football. Il ne se passe pas une journée sans qu'on commémore quelque chose. L'imagination au pouvoir, qu'il disait. Ha ha ha. Et enfin, troisième raison, cette émission va ravir tous les autres, puisque nous la terminons en beauté, au sens propre du terme, avec l'une des plus chouettes actrices de notre beau pays qui aime tant les vendredis et les commémorations. Louise Bourgoin est l'invitée de Pop Pop Pop.
France Inter.
Pop Pop Pop.
Antoine Decaune.
Bonjour Louise Bourgoin.
Merci Antoine.
C'est dur à Bonjour. Dire, hein, commémore.
Non. Oui, c'est très dur à dire.
Oui, trois syllabes, quatre. À mes côtés, Charline Roux. Bonjour, Charline Roux.
Mais ça aussi, c'est difficile, c'est comme commémore. Bonjour Antoine, bonjour Louise.
Au menu de... Je suis troublé, ça doit être ça. Au menu de Pop Pop Pop, une opérette déjantée, opéra porno, mise en scène par Pierre Guillois, qui sera avec nous tout à l'heure. Et tout de suite, en cette journée mondiale de la météorologie, l'ex-Miss Météo de Canal+, désormais comédienne Louise Bourgoin. Alors voilà pour le menu, Louise. Je laisse à un autre breton retraité de la chaîne cryptée le soin de lancer cette émission.
Bonjour, c'est Luc Prigent et j'écoute Pop Pop Pop. Pop Pop Pop. Pip Pop Pop. Voilà.
Et pop pop pop, c'est parti. Louise Bourgoin, ici, il existe une question encore plus angoissante que de savoir si oui ou non il va flotter pendant le week-end. Et cette question, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture?
Oh, ça me rappelle mon cours d'art plastique au lycée, quand je découvrais Andy Warhol, Jeff Koons. Et finalement, les choses qu'ils sublimaient, eux, en tant qu'artistes, c'était des choses qu'on trouvait au supermarché. Et c'est pour moi une belle définition. Mais alors, j'imagine que vous vouliez une réponse plutôt musicale?
Pas du tout.
Pas forcément?
Ah non, non, pas forcément. Non, non, justement, le champ de la pop culture
donc,
est très ouvert.
Donc, un art anti-élitiste, anti-avant-garde, pour tout le monde, facile à découvrir, pour tous.
Très bien. Ça vous convient, Charline?
C'est parfait.
Ben, ça me convient aussi. Donc on démarre. Louise Bourgoin, on parle de culture pop et de pop culture juste après la nouvelle révélation du rock anglais Shame et le morceau One Rizzler.
Yeah.
One Rizla du groupe anglais Shame, un nom à retenir. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec Ariane Bourgoin, ou plutôt Louise Bourgoin, en référence à l'artiste Louise Bourgeois. Qui se cache derrière cette jeune personne schizophrène? Réponse avec son pop portrait. Alors Louise Bourgoin, votre pop portrait, c'est votre portrait, mais...
Ah voilà, c'est pour ça, pop.
Et oui, c'est signé Charline Roux.
Aujourd'hui, nous recevons une comédienne découverte en Miss Météo. Au cinéma, devant la caméra d'Anne Fontaine, dans La Fille de Monaco. Encouragée, voire adoubée par ce grand taiseux de Fabrice Luchini. Premier rôle, première nomination au César, catégorie Espoir. Sentiment confirmé par la suite, toujours sur grand écran sur lequel Louise Bourgoin a été tour à tour la vénéneuse Audrey de L'Autre Monde, la fleuriste du Petit Nicolas. Michel, la sublime épouse de François Cluzet dans Le Traitant d'Axe, si vous me permettez l'expression, blanc comme neige. Elle a aussi été une héroïne de BD dans nos ciné, Adèle Blanc-Sec, la trouble Sandra d'Un Beau Dimanche, une Barbara, non pas la chanteuse, au bout du rouleau dans Un heureux événement, la très badass Sandrine de Je suis un soldat, ou encore Sœur Christine, mère supérieure du couvent Sainte-Marie dans La Religieuse. Photo non contractuelle et filmo non exhaustive. Aujourd'hui, Louise Bourgoin revient dans la peau de Jeanne, 1m70, yeux bleus, et accessoirement 200 francs qui se voit dans l'obligation d'emménager en coloc avec un garçon, disons, agité et égocentré. L'histoire donc d'une mère de deux enfants qui se retrouve en charge d'un troisième, beaucoup plus vieux, pénible et moins indépendant, d'un mec en quelque sorte. Et ça pourrait être mon histoire depuis que je travaille ici même à Pop.
Ah, je ne sais pas du tout comment je dois le prendre là, ce que je viens d'entendre.
Ah, ça m'a échappé, pardon.
Vous avez échappé. Ok, c'est la bonne définition d'un mec, non? On est d'accord? Ok, non rien. Bon. Louise Bourgoin, vous êtes l'invité d'une émission de... Savez-vous faire...
Non, je ne sais pas, mais je rêverais de pouvoir le faire. Je sais juste siffler.
Ça n'a rien à voir. Bon,
vous savez faire la goutte d'eau aussi?
Non, ça c'est un verre qui se remplit.
Ça c'est un film porno là.
On y viendra tout à l'heure, vous inquiétez pas. Vos goûts sont-ils en avez-vous marre de m'entendre faire Alors, passons à votre pop list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série, un jeu vidéo. On va commencer par le livre. Et vous avez choisi Le Crépuscule des Pensées. C'est un recueil de poésie d'Émile Cioran paru.
Je trouvais que ça teasait bien ma film en fait. Les dents pipi et
en 91. Alors généralement nous passons un extrait de Guillaume Gallienne lisant les livres choisis pour cette pop list.
Et vous n'avez pas trouvé?
Ben non, il l'a pas lu ça. Ah. Mais cette semaine, comme il est en thalasso, en plus, on s'adapte. C'est donc le youtubeur Benoît Muche qui s'y colle en lisant les premiers mots du Crépuscule des Pensées.
L'équivoque de l'amour vient de ce qu'on est heureux et malheureux en même temps. La souffrance égalant la volupté dans un tourbillon unitaire. C'est pourquoi le malheur en amour grandit à mesure que la femme comprend et aime davantage.
Alors, Cioran ou Cioran, on peut le prononcer des deux manières.
Émile,
oui, c'est beau, mais c'est triste. Hein.
C'est passionnant.
Le livre qu'on lit au mois de février.
C'est une tristesse. D'ailleurs, il a le ton approprié, je crois, vraiment, avec ce pendre. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que d'abord, ça se lit très facilement et pas forcément dans l'ordre, puisque c'est un recueil de pensées. Et en plus, c'est tellement triste, tellement cynique et désabusé que ça en devient drôle. Moi, ça me fait rire. Et ce type, il s'est jamais mêlé au monde, en fait. Il a jamais voyagé. Il est resté dans une chambre de bonne à écrire toute sa vie, avec la même vue. Et je sais pas, j'ai un truc comique là-dedans.
Vous voulez dire que ça vous donne la pêche, en fait, les
pensées. Ouais, exactement. Okay. C'est guérir le mal par le mal.
Oui, parce que c'était pas leur destination première. Enfin, j'ai pas connu Émile, mais je suppose. Bon,
il y a beaucoup d'humour, finalement.
Pour le film, vous avez choisi La Fièvre dans le sang.
C'était un des proches un peu poussé, quoi.
Ah, très, très poussé, alors. Extrêmement poussé. Pour le film, donc, La Fièvre dans le sang, réalisé par Elia Kazan, ou Kazan, Cioran, on ne saura jamais,
fait,
en 61, en 1929.
Le safran, une safrane, oui.
En 1929, dans une petite ville du Kansas, Bud Stamper, un étudiant, est amoureux de sa camarade Dini Loomis, qu'il souhaite épouser, mais Ace, le père de Bud, un homme d'affaires fortuné et conscient de son rang, s'oppose à ce projet, jugeant que la jeune fille appartient à un milieu trop modeste. Écoutons un extrait de la bande-annonce en VO.
This is Natalie Wood. Maybe you don't recognize her. That's probably because you've never seen her like this before. This is Warren Beatty. He starred on Broadway. This is his first movie role. You won't forget him.
It's what I want to count.
This is a love story unlike any other. Its title, Splendor in the Grass.
Nathalie Moore, Warren Beatty, une histoire d'amour splendide. Pourquoi La fièvre dans le sang, Louise Bourgoin?
C'est une histoire d'amour impossible. C'est le film romantique dans toute sa splendeur. Et il faut absolument le voir en VO, évidemment. Ça s'appelle Splendor in the Grass. Si vous ne l'avez pas encore vu, il faut absolument le voir. C'est un amour impossible parce que c'est deux jeunes gens qui s'aiment à la folie et qui sont empêchés par leurs parents pour des raisons... purement pratique de vivre leur amour au grand jour et d'aller au bout de cette passion. Et puis, ils vont se retrouver bien plus tard, alors que leurs vies sont faites. Mmh. Et ils vont réaliser qu'ils s'aiment toujours, mais que malheureusement, voilà, ils ne seront jamais ensemble.
Très bien.
Et Nathalie Wood est une comédienne absolument fascinante.
Si ah oui, vraiment. Voilà. Elle est incroyable dans le film.
Vous pouvez vous permettre, Charline.
Je vous remercie, Antoine.
Vraiment, je vous permets.
C'est très aimable. Joue, là, la frustration sexuelle dans la baignoire, là, il y a une scène incroyable. Enfin bon, il faut le voir. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu?
Mais bien sûr que je l'ai vu, évidemment. La fièvre dans le
sable. C'est pas votre film préféré? C'est quoi votre film préféré?
Mon film préféré à moi?
Ouais. Je savais qu'un jour quelqu'un vous retournerait
oui,
le principe de la pop-liste.
C'est assez.
C'est jamais arrivé?
Non, jamais. Jamais jusqu'à présent. Je dirais peut-être La prisonnière du désert de John Ford.
Ah, je l'ai pas vu.
Mais je ne sais pas si c'est mon film préféré. Ça bouge beaucoup. Ah là, puis il faut réfléchir un peu avant de répondre à ce genre de questions. Là, vous me prenez au dépourvu. Pour la sous-série, Louise Bourgoin, vous choisissez Téléchat, une série télévisée franco-belge de 234 épisodes, créée par Roland Topor et Henrik Zonneux, et diffusée à partir de 1983.
Il n'y a qu'une télé, c'est Téléchat. Il n'y a qu'une télé, c'est Téléchat.
Alors là, moi, je suis très, 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 très ému.
Pourquoi?
Parce que c'est ma maman qui avait créé cette série avec Roland Topor.
Mais je ne savais même pas.
Bah oui.
J'adorais cette série. Et moi, je suis née en 81, donc j'étais vraiment toute petite quand ça passait. Et c'était un univers incroyable. D'ailleurs, un peu adulte. Mmh. On se sentait un peu comme si on n'avait pas vraiment le droit de voir ce qu'on voyait en tant qu'enfant. Et c'était surréaliste, c'était beau, c'était intelligent. Je trouve que ça manque aujourd'hui à la télé.
C'était une émission pour les enfants qui faisait rire les adultes.
Voilà.
C'est comme les Shadok.
Oui.
Vous avez cherché des gluons dans tous les éléments qui vous entouraient.
Oui, et Lola. Oui,
bien
et...
sûr.
J'ai même les petits personnages en plastique que j'ai trouvés sur eBay.
Oh la chance.
Vous les avez encore?
Oui, oui. Mon fils joue avec.
Très bien.
Mais j'adorais Topor. Et d'ailleurs, ses dessins sont exposés en ce moment à Galerie Anne Barrou, je crois.
Et pour finir, eh bien, le jeu vidéo, là vous avez choisi Aladdin sur
Mega... Aladdin.
Aladdin, Kazan, Sioran, Aladdin, Téléchat, Aladdin sur Mega Drive 2, c'est sorti en 1993 ça.
Ah là là, cette musique.
Et là, on entend la musique du jeu. Mais pourquoi donc cet Aladdin?
Bah, ce jeu, il m'a marqué à vie, parce que finalement, c'était vraiment les tout débuts de la console, et je me souviens que pour aller au bout du jeu, si on se plantait, il fallait tout refaire depuis le début, il n'y avait pas de sauvegarde. Voilà, je suis très âgée, je ne devrais pas dire ça. Et du coup, j'ai passé un nombre d'heures sur ce jeu, mais fou, quoi.
Il y avait même une phase de jeu qui était assez incroyable, où il fallait jouer de la flûte pour faire lever des serpents, pour pouvoir les escalader et passer d'une plateforme à une autre.
Arrêtez, c'est vrai.
Oui, c'est vrai que c'était très phallique, en fait.
Oui. Mais en fait, il me manquait quelque chose dans cette pop liste, et c'est une chanson, et cette chanson, c'est celle-ci que vous avez choisie.
Un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie.
Les eaux de Mars, adaptation française de Georges Moustaki d'une chanson de Carlos Jobim. C'est sorti en 1973.
Ouais.
Préférez la version française à la version brésilienne?
Eh oui, c'est rare. D'habitude, on préfère toujours l'original, mais non, je préfère l'adaptation française. Parce que je comprends ce qu'il se dit déjà. Et puis,
ce qu'il dit, oui.
Non, ça me rappelle toute une époque. Voilà, le naturisme, mon premier amour danois. Ça va bien avec les paroles.
Bon, ça, c'est pour le côté culte, mais la chanson que vous écoutez en ce moment en boucle, c'est Bronski Beat, Small Town Boy. La version originale ou bien celle remasterisée par Arnaud Robotini?
Non,
pour
l'original,
le film,
cette fois-ci. Voilà. En fait, je la réécoute depuis les Césars, parce qu'on l'a beaucoup entendue grâce à Manu Payet, et du coup, je l'ai... Voilà.
Tu en as livré une version très personnelle.
Oui.
Et là, vous comprenez ce qu'il dit?
Cours, 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 échappe-toi de ta petite ville d'homophobe.
Bien, je vois que vous êtes parfaitement bilingue. Bien, je résume. Le crépuscule des pensées, la fièvre dans le sang, Téléchat, Moustaki, je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture, sans la barbe de Moustaki, parce que sinon ça va bloquer.
Tout ça, c'est très pop.
Ouais. Et ça donne ça.
This is Natalie Wood. Maybe you don't recognize her.
C'est Téléchat.
C'est le souffle du vent au sommet des collines.
That's probably because you've never seen her like this before.
L'équivoque de l'amour.
This is a love story unlike any other.
Vient de ce qu'on est heureux et malheureux en même temps.
Splendor in the grass.
C'est ce que j'entendrai avant de mourir.
Voilà ce qu'il y a en tous les cas dans votre tête aujourd'hui, Louise Bourgoin. Bon, ça vous plaît ?
Beaucoup, je trouve ça très poétique.
Très bien, alors on continue. Louise Bourgoin, il est 16h23, j'ai envie d'écouter Bruce Springsteen. Bah oui, c'est comme ça, c'est mon émission, alors j'ai le droit. Allez, c'est parti.
Antoine Decaune sur France Inter.
Exactement.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire.
Mais oui, c'est mon Bruce, I'm on fire. C'est un morceau de 1984, extrait de l'album Born in the USA.
Je connais pas cet artiste, ça mériterait d'être découvert.
Vous voulez que je vous en parle tout de suite ?
Non, on fera ça en antenne.
Ok, Charline. Nous sommes toujours en compagnie de Louise Bourgoin. Louise Bourgoin, vous êtes à l'affiche du film Les Dents, Pipi et Oli, une comédie d'Emmanuel Gilibert. Bande annonce.
Yeah ! C'est genre en train de danser les gars, ça va ma chérie, ouais. Tout comme tout j'adore. Salut les filles.
Hey. À Thomas, pour sa dernière soirée dans son appart.
Et à son remplaçant, grâce à qui cette colocation va être un truc de...
Oh, de ma gueule !
Comment ça, il vient plus ? Ah ouais, t'as un plan B ? Eh ben l'intérêt est encore dispo. Jeanne.
Antoine ?
Sinon, t'es célibataire ?
Coucou Antoine !
Je vais avoir des mannequins, tu me refiles des gamins ! C'est très simple, à la fin de la semaine, vous êtes plus là. Toi, étiquette-tac, vous dégagez.
Là, tu vois, je viens de quitter mon appartement où se trouve mon mari, qui doit se trouver en ce moment dans Sandrine. Alors nous, on reste, et toi, je m'en fous.
Alors ça, c'est la bande-annonce de ce film Les Dents, Pipi et Oli, une comédie d'Emmanuel Gilibert, où vous jouez aux côtés d'Arnaud Ducret. Mais que diriez-vous, on va commencer par ça, hein, que diriez-vous à un homme de mon âge pour qui c'est plutôt quand même Stéradan, Oli et puis Pipi?
Bah c'est la suite, c'est la maison de retraite. Oui, ça viendra.
Always discreet. Mais après, c'est perso.
Partagez l'affiche du film avec Arnaud Ducret, comme je le disais à l'instant, que vous avez découvert et adoré sur scène, c'est bien ça?
Oui, dans Arnaud Ducret vous fait plaisir. Mm-hmm. Je trouve qu'il a un talent pour imiter le mec bourré ou le prof de karaté, qui est assez... D'ailleurs, il va l'adapter au cinéma, mais il est fascinant. Et puis surtout, il a apporté beaucoup dans le film parce qu'il a une énergie délirante. Et justement, l'intelligence d'Emmanuel Gilibert, ça a été de s'adapter à lui, à son talent. Et il a laissé durer certaines scènes qui sont vraiment cultes, notamment une scène de
sexe, où il mime ce qu'il aimerait me faire, et ça dérape en partouze géante avec accent polonais. Enfin, il fait un truc improbable, comme s'il avait été séquestré et qu'on l'avait forcé à regarder YouPorn pendant 2 mois.
Arnaud Ducret, que les spectateurs de France 2 connaissent aussi en père de famille un peu fantasque dans la série Parents mode d'emploi. Vous, Louise, vous avez été une jeune mère en gros postpartum dans Un heureux événement. Ouais. Dans ce film, vous êtes donc une mère séparée, obligée de cohabiter. Il semblerait qu'on ne veuille pas au cinéma vous laisser vivre une maternité assez sereine.
C'est étrange. C'est vrai. Bah, c'est le principe de la comédie. Mais dans ce film, j'étais déjà maman et ça m'a permis d'aller très très loin dans la démonstration affective. J'avoue que je me suis vraiment lâchée là. J'aime mes enfants avec un amour, mais vraiment mièvre et dégoulinant, et lui, ça l'horrifie, quoi. Mais c'est d'après une histoire vraie, hein. C'est vraiment arrivé au metteur en scène.
Ah oui.
Beaucoup de coups de fil d'auditeurs là pendant que vous parliez à l'instant, après ouais. Vous avoir entendu parler d'Airsex, c'est la spécialité d'Arnaud Ducret, donc c'est oui. Quoi exactement
l'Airsex? Alors, pardon, bien sûr, bah, c'est comme le air guitar en fait, hein, c'est imiter, enfin c'est mimer quelque chose. Mm-hmm. Et donc là en l'occurrence, bah, des choses sexuelles.
Ouais. Et c'est très très graphique dans le film, hein, c'est-à-dire que.
Ah, on voit ça.
C'est presque,
ah,
oui, c'est presque oui. Gênant alors,
ah,
qu'il est tout seul et habillé.
Alors qu'il est tout seul et habillé. Ah oui, c'est obscène. Oui, mon agent l'a vu, elle a failli tomber dans les pommes.
Mais comme quoi, il n'y a plus besoin de se dézapper.
Hein. Non.
Louise Bourgoin, on vous voit peu dans des comédies. Vous dites que dans les scénarios des comédies que vous recevez, souvent les rôles féminins sont hyper stéréotypés.
Ouais,
des femmes hystériques, vierges ou à la recherche d'un mec, belle mais pas drôle ou frigide. Pourquoi ce scénario-là, en particulier, vous a-t-il séduit?
Alors, ce scénario, il m'a plu parce que c'était pas un coup, c'est-à-dire un concept de type calculateur. C'est vraiment, d'après une histoire vraie, je trouve que ça se ressent dans le film. C'est un premier film que j'ai trouvé touchant à la fin. Et puis, bah, le réalisateur, je le connais très bien. Donc, il m'a fait intervenir sur l'écriture dès le départ, il y a déjà plus de 6 ans. Et que dire d'autre? Oui, Arnaud Ducret, c'était une envie aussi que j'avais de jouer avec lui parce qu'il a une énergie folle. Alors moi, j'ai toujours l'air très posé dans mes films, mais alors là, j'ai l'air à l'article de la mort face à lui, parce qu'il est complètement neurasthénique. Ah bah, il est... je savais pas que c'était possible d'être aussi...
Et puis le plaisir de participer au premier film, le
exactement,
fameux syndrome du premier film.
Oui, d'aider un premier film, voilà. Et puis, j'ai trouvé qu'à travers cette colocation forcée, finalement, il y avait plein de prétextes à la comédie. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus.
Je reviens sur ce que vous disiez à l'instant là. Pourquoi selon vous, les rôles féminins sont-ils aussi stéréotypés dans le cinéma français? Ça tient à quoi?
Bonne question. Moi, je trouve que les metteurs en scène, en général, les hommes, les réalisateurs masculins qui écrivent leurs films, ils se disent, tiens, si j'étais une femme, qu'est-ce que je dirais? Au lieu d'écrire comme pour eux, pour ce qu'ils diraient eux, en changeant le prénom. J'ai toujours l'impression qu'il s'est passé par un prisme de stéréotypes. Oui, où, voilà, il y a des femmes assez stéréotypées, unilatérales, il n'y a pas de complexité. Et je trouve que, par exemple, dans Victoria, qui est une comédie qui m'a beaucoup plu avec Virginie Efira, elle est plein de femmes à la fois, cette femme. Elle est multiple, elle est riche, elle picole un peu en cachette, bon, elle a plusieurs mecs, et à la fois c'est une bonne maman, enfin, elle est multiple. Et ça, je trouve que ça manque dans le cinéma.
Comme
mais ce
toutes.
Qui m'a plu là, dans le rôle de Jeanne, c'est que justement, elle est indépendante, elle vit seule, elle s'est barrée, elle a ses 2 gamins sous le bras, elle est pas femme au foyer, quoi.
Spontanément, Louise Bourgoin, vers quel genre de ciné, quel registre vous allez avec le plus d'allant?
Il faut qu'il y ait des choses à jouer, que j'ai envie de m'amuser, et j'aime mille metteurs en scène. Je suis naturellement allée vers des films assez sombres et mélancoliques, c'est vrai, ces dernières années. J'avais jamais joué vraiment dans des comédies, à part l'année dernière dans Sous le même toit de Farrugia et ce film-là. Mais moi, je suis une grande cinéphile et j'aime plutôt les films assez mélancoliques, je dois dire.
Bah oui, c'est les meilleurs. Bah oui. Bien sûr.
Ouais. Et les bonnes comédies sont toujours un peu mélancoliques aussi.
Bah oui, puis finir en larmes devant un film, il n'y a rien de meilleur. Non.
Ça va, Antoine?
Oui, j'adore. Louise Bourgoin, vous deviez devenir professeur d'art plastique, mais vous avez échoué à l'examen et vous avez pris cet échec comme un message.
C'est vrai.
Vous avez alors décidé de faire des sketchs à la télé. Ouais. Vous vouliez faire rire. Flashback.
Madame Bouquet, Madame Guigou, vous faites partie avec Catherine Deneuve de l'Association internationale des beautés glaciales. Alors je tiens à dire que j'ai évidemment tenté d'adhérer à cette association, vu que je suis moi-même sublime et réfrigérée. Mais on m'a assez froidement fait comprendre que je n'y étais pas la bienvenue en me répondant, je cite, « Vous avez le feu au cul ».
Et ça, c'est vrai. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de revoir ou de réentendre tous ces petits passages? Et vous lui diriez quoi aujourd'hui à la jeune fille que vous entendez sur ce plateau?
C'est mignon comme question. Je lui dirais « Ah, c'est bien, courage, allez !» En fait, je me vois maintenant à 24 ans, hyper gamine quand je revois les images. Ouais. Et j'étais hyper naïve. C'est drôle. Donc, sur ouais, le
déjà,
moment, quand on le fait,
déjà
on
efficace.
Se sent déjà guéri, je sais pas. J'avais déjà fait des émissions sur une petite, plus petite chaîne. Et, je sais pas, je me sentais pas jeune fille, quoi, comme aujourd'hui je me vois là. Et j'avais seulement 24 ans et c'était très, très intimidant pour moi parce que je savais qu'il y avait 2 millions de personnes et j'avais une pression dingue. Et quand je ratais, quand je balbutiais, j'en dormais pas de la nuit. Enfin, chaque fois, je jouais ma vie, quoi, pour des petites choses. Pour 2 minutes d'antenne, c'est marrant, mais je le faisais avec un tel cœur que ça me touche, ouais.
On ne peut pas le faire autrement, je pense. Ouais. Bon, pour en rester à la télévision, pour vous qui venez de l'univers de l'art, il y a un côté pop art avec la télévision. Vous
ah, dites, complètement, ouais.
Vous avez dit, je vous cite, mes interventions un peu absconses étaient regardées par 2 millions de personnes, vous venez de le répéter à l'instant, alors qu'au Beaux-Arts, j'étais déçu de voir que la plupart de mes accrochages d'art se déroulaient entre initiés. C'est ça qui vous a donné aussi envie de faire du cinéma?
Sûrement, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait plein d'intervenants, des cinéastes à Paris, aux Beaux-Arts de Paris, qui venaient présenter leurs films. Et je trouve ça bien, justement, je trouve qu'on devrait parler un peu plus d'art contemporain à la FEMIS et qu'il y ait un peu plus de cours de cinéma aux Beaux-Arts. Je trouve ça, justement, c'est la manière idéale de démocratiser l'art. Parce que moi, ce qui me rendait triste, effectivement, c'est que quand on allait à des vernissages aux Beaux-Arts, on se retrouvait entre profs, entre élèves et que le public comprenait rien, quoi, vraiment rien.
J'ai lu également que le déclic venait de l'artiste Louise Bourgeois, qui vous devait votre nom de scène, votre prénom, qui décrivait dans un reportage face à des journalistes une de ses œuvres, à savoir un pénis géant, en imaginant une histoire extraordinaire autour de celui-ci et en jouant devant la caméra comme une actrice. Un pénis géant, c'est troublant comme point de départ d'une carrière pour une actrice, non?
Ce qui m'avait marqué dans ce documentaire sur Louise Bourgeois, c'était sa façon de parler d'art, justement, effectivement, comme une actrice qui invente une histoire et qui participe complètement à l'objet qui est présenté. Et je me souviens que ce pénis géant qu'elle tient sous le bras dans un manteau à poils, donc il y avait quasiment une pénétration entre une baguette et son bras, et elle disait que c'était une fillette avec son cache-nez. Et on se disait, mais cette femme de 75 ans, elle plaisante là ou elle est sérieuse? Et du coup, ça crée une fascination autour d'un objet qui n'était pas si beau que ça finalement.
Vous le dites volontiers, vous êtes très exigeante en premier lieu avec vous-même, quand il s'agit de votre travail particulièrement. J'ai une question hyper dure. De laquelle de vos œuvres vous êtes aujourd'hui la plus fière?
Il y a deux films qui ont vraiment, vraiment compté pour moi. C'est Un beau dimanche de Nicole Garcia, qui m'a appris beaucoup sur le plateau, dans sa façon de me diriger, qui passait par le corps et pas par l'intellect, parce que j'ai tendance à vraiment beaucoup trop me prendre la tête et avoir du mal à débrancher mon cerveau. Et Je suis un soldat aussi, qui était à Cannes, à Un certain regard, qui est sorti en 2015. C'est un film qui a été vraiment écrit pour moi, une sorte de portrait, et par un metteur en scène que j'aime beaucoup. C'était aussi un premier film. Et ça a été douloureux parce qu'il est sorti pendant les attentats, personne ne l'a vu, mais c'est un film qui a beaucoup compté pour moi. Donc j'estime que voilà, c'est comme des peintures.
Louise Bourgoin, vous allez, m'a-t-on dit, faire votre retour sur Canal+?
Oui, en novembre, dans une série de Thomas Lilti. Je suis en tournage en ce moment. C'est lui qui avait réalisé Hippocrate avec Reda Kateb et Vincent Lacoste. C'est sur le monde hospitalier. C'est vraiment la série qui part du film.
Vous jouez quoi?
Je joue une interne et j'ai des camarades de jeu vraiment formidables. Alice Belaïdi, Géraldine Nakache, Zachary Chassériau, Karim Leclou, Anne Consigny, Rick Caravaca. La série est géniale. C'est vraiment extrêmement bien écrit et j'ai vraiment trouvé mon personnage. Je suis tombée amoureuse folle de mon personnage dans la série.
Ce sera pour le mois de novembre.
Novembre, ouais.
Ça, très bien. Mais le film, lui, est sur les écrans. À partir de quand?
Mercredi.
Mercredi prochain. Bien. Ouais. Louise, on continue l'émission, mais je vous repose la question. Est-ce que vous allez faire ça maintenant?
Non, toujours pas.
Toujours
vous
pas
allez me montrer hors antenne.
Observez quand même. Depuis, regarde, il suffit de faire.
Mais non, il suffit pas. Non, mais il faut aspirer de l'air aussi.
Non,
en
rien
même
du
temps.
Tout. Non, non. Ben voilà.
Ah, j'ai réussi. Voilà. C'est un petit pop.
Mais du coup, ça me permet de lancer les pop news.
Et éloigner les enfants, enfin en tout cas éloigner les enfants bilingues. Après le teaser que nous vous avions d'ailleurs diffusé ici, voici la bande-annonce du deuxième volet des aventures du plus trash, du plus vulgaire, du plus cinglé des super-héros. J'ai nommé Deadpool. Attention, poésie.
What in the fucksicle is this?
My name's Cable. I'm here for the kid.
What? The kid?
Move or die.
kids give us a chance to be better than we used to be. He needs you.
You're a lot smarter than I look.
I ain't letting Cable kill this kid. But I can't do this alone.
Can you speak up? It's hard to hear you with that pity dick in your mouth.
Voilà,
des gros mots, de la baston, un méchant incarné par Josh Brolin et un enfant au milieu de tout ça, mais comptez sur moi, le 16 mai au cinéma.
Coup de projecteur sur un documentaire consacré à une grande figure de la musique, le producteur Bert Burns, qui a, entre autres, travaillé avec The Isley Brothers, Solomon Burke, The Drifters, Benny King, et qui a co-signé des titres tels que Twist and Shout et Everybody Needs Somebody, enregistrés à l'origine par les Top Notes et Solomon Burke, et respectivement repris par les Beatles et les Blues Brothers, ou du Here Comes the Night de Van Morrison, des titres à multiples vies. Dans le documentaire, bon nombre d'artistes saluent le génie de Bert Burns, et notamment un certain Keith Richards. Et juste après, c'est un dénommé Van Morrison qui plus soit.
Bert Burns, one of the greatest songwriters of all bloody time. You know, he's as simple as that.
The guy was a genius.
Documentaire s'appelle Bang, The Bert Burns Story, et il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales.
C'est aujourd'hui que sort Staying at Tamara's, le deuxième album de George Ezra, un jeune anglais découvert il y a 4 ans avec ceci. Give me one good reason why I should never make a change. Budapest et une longue période de tournée et de labeur écoulée, le revoilà donc 4 ans plus tard avec un album tout frais contenant un titre avec le groupe suédois First Aid Kit. Ce titre, c'est Savior, dont il a livré une très chouette version live au studio d'Abbey Road. Le deuxième album de George Ezra s'appelle Staying at Tamara's. Il sort aujourd'hui et George Ezra qui sera en concert le 13 avril à Paris, au Trianon.
France Inter. Pop-pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
George Ezra.
Merci Charline. Louise Bourgoin, avant de parler de porno et d'opéra avec l'opérette Opéra Porno et son metteur en scène Pierre Guillois, on écoute Michael Kiwanuka avec Rest.
Go on.
rest your soul. Live in peace. I won't let you worry. I won't let you worry. I won't let you worry.
Michael Kiwanuka reste, c'est un morceau de 2012 à retrouver sur l'album Home Again. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Allez, nous sommes donc toujours en compagnie de Louise Bourgoin et vient de nous rejoindre Pierre Guillois, l'auteur et le metteur en scène d'opéra porno. Bonjour Pierre Guillois.
Bonjour.
Pierre Guillois, je ne vous demande pas si vous savez faire pop, j'imagine qu'il y en a quelques-uns dans votre opéra porno.
Des choses comme ça. Ouais.
Bon, je connais l'opéra, je connais le porno. Enfin, on en a parlé, bien sûr, mais c'est quoi l'opéra porno?
Bah, ça n'existe pas. On l'a inventé avec Nicolas Duclos, le compositeur. Mm-hmm. C'était son idée. Et donc, c'était de faire frotter deux choses impossibles. L'opéra, qui est tragique, qui est digne, qui transcende les sentiments, et avec la pornographie, qui est réservée pour l'intimité, normalement. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Et de mettre tout ça. Au théâtre.
Le mélanger, le trivial et le sublime.
Exactement.
D'accord. Ça se joue depuis mercredi et jusqu'au 22 avril au Théâtre du Rond-Point. C'est donc mis en musique par Nicolas Duclos, que vous venez de citer, sur un livret de votre plume, si je puis dire. Et ça donne ça.
Le paysage que j'ai face à moi n'est pas mal non plus.
Ah oui ? Décris, Victor. Décris le paysage. Pas de soutif ? Pas de culotte.
Je vois un bosquet.
Voilà.
Un petit buisson.
Bien.
C'est que Clotilde, j'ai jamais été très fort en description.
Oh, mais si, c'est très bien, Victor. Poursuis. Prends ta canne. Ce ne serait pas le moment de pêcher un peu sérieusement, Victor? J'aimerais tellement attraper une tanche.
Clotilde, ça tangue, hein. Depuis le temps qu'on attend le plongeon du petit bouchon. Où ça penche? Attention, c'est pas étanche, c'est embarcation.
Sur cet étang, il est grand temps. Que tu embroches ta belle tanche.
Scène lyrique à bord d'une petite embarcation, donc sur un lac. Hein.
Scène délicieuse. Okay. L'objectif de l'opéra porno, Pierre Guillois, c'est, je cite, une pornographie chantante et décomplexée. Est-ce que ça veut dire que vous nous trouvez à l'heure actuelle trop bridés et mutiques, peut-être?
Ah, c'est sûr, oui, c'est sûr. En fait, quand on s'attaque à ça, tout d'un coup, on se rend compte que quand on décape, Quand on va un petit peu au fond sur des... C'est même plus des tabous, c'est des choses enfouies, des choses absolument interdites, inimaginables. Mais c'est marrant parce que ça provoque un rire très particulier parce qu'on savait même plus que c'était possible, en fait, de le faire. Et oui, donc, enfin, je ne dis pas que les gens sont coincés, mais ça réveille ça, en fait.
Le pitch de départ, hein, c'est un week-end familial à la campagne, mais la fête dégénère. Tromperie, sexe à gogo, scatologie, orgie enchantée. Ils sont comment vos week-ends en famille, à vous, Pierre Guillaume?
Très sage, forcément, mais très sage, c'est toujours pareil. Je sais pas pourquoi j'écris ces horreurs. c'est terrible, mais c'est une vie classique, quoi. Voilà, c'est ça, faut que je m'allonge. Là, oui.
Quels seront, à votre avis, les spectateurs les plus conquis? Les amateurs d'art lyrique ou les aficionados de Jackie et Michel?
Non, ils seront les deux déçus parce que c'est ni de l'opéra, ni de la pornographie, évidemment. C'est de la farce, c'est du burlesque, c'est quelque chose qui décape. Donc, je sais pas ce que... Voilà, il faut que c'est quelque chose pour se réjouir de cochonceté.
Alors, au niveau de la psychologie des personnages, peut-on dire que la belle-mère n'attend qu'une chose, c'est de forniquer avec son beau-fils? Le père, lui, a une ambition claire, celle d'en... son fils, et ce fils, lui, se trompe en enfilant sa grand-mère. Ah oui, et à sa grande surprise, la grand-mère se rend compte qu'elle, je cite, « peut jouir du cul ».
Antoine Decaune, sur France Inter.
C'est bien cela?
Elle dit « j'ai joui du cul ».
Oui,
ouais, précisément. Mm-hmm. Sauf qu'elle a plus de dentier, donc on la comprend mal quand elle le dit, donc elle le répète 4 fois, c'est un peu compliqué.
Où est la morale dans cette histoire, Pierre Guillois? Et merci la morale, de ne pas me répondre dans ton cul.
La morale, elle est citée à la fin du spectacle, c'est « on n'éjacule pas dans grand-mère ».
Ce qui est une bonne morale, je trouve. Les représentations ont démarré cette semaine. Quelles ont été les premières réactions observées chez les spectateurs?
Eh bien, heureusement pour nous, les gens se marrent beaucoup. Alors, il y en a quelques-uns qui sortent. On ne pourra pas y échapper. On ne peut pas faire rire tout le monde sur ces sujets. Mais non, les gens rient beaucoup parce que c'est... parce que je pense qu'ils se délectent de ces choses sales, interdites. Ouais. Mais c'est ce plaisir-là qu'on recherche.
Mais alors justement, à l'heure du cucu débridé, on accède direct sur vos ordi et vos télés. C'est quoi pour vous la vraie pornographie?
Ah ben ça, je ne peux pas vous dire. La pornographie, je pense que chacun en a une vision, et encore un peu abstraite. Personne n'est d'accord sur la notion de la pornographie, ce que c'est vraiment. En tout cas, nous là, on s'est dit... On parle de sexe, et dans l'écriture, je me suis dit, du coup, tout est permis. Et cette permission étrange, en fait, de dire tout est permis, elle est assez étonnante, parce qu'on a l'impression que quand on est auteur, qu'on se permet toujours tout. Mmh. Mais en fait, non. À partir du moment où je me suis dit, c'est pornographique, je suis allé beaucoup plus loin dans le vice, dans la perversion, etc. Mmh. C'est marrant.
Louise, vous en pensez quoi de tout ça, vous?
Non, parce que je sais que vous n'êtes pas contre.
Moi, je sortirai pas de la salle, en tout cas. J'ai hâte d'y aller.
Non, parce que je me souviens de petits dessins coquins aussi.
Moi, j'adore les dessins érotiques. Non, je m'interrogeais, je me demandais, tiens, c'est quoi pour toi la vraie pornographie? Peut-être le direct, les choses qui sont pas...
Sans filtre, qui sont pas
éditables. Là, c'est obscène, là, en ce moment, de vous parler en direct.
C'est vrai?
Oui. On va avoir des soucis.
Vous êtes comédienne, vous jouez...
Mais justement, c'est pas du direct, on peut refaire.
D'accord, mais... Qu'est-ce qui vous arrive?
On rembobine.
C'est un effet, d'accord. Vous êtes téméraire, même, comme comédienne, c'est-à-dire vous n'êtes pas opposée à des propositions un peu bizarres. Est-ce que là, ce genre de prestations, vous seriez cap ou pas cap d'y aller?
Ah oui, je serais capable, ouais. Mais j'ai jamais fait de théâtre, ça me fait peur justement parce que c'est du live.
Et vous chantez?
Mais il faut qu'on se voit, on va parler. Et vous chantez, Louise? Ah non, je chante très mal.
Ah oui, il fallait chanter.
Qu'est-ce que vous pourriez trouver, Pierre, comme argument pour convaincre Louise?
Mais il n'a peut-être pas du tout envie de moi.
Ça pourrait fortement m'intéresser. Mais je pense que plus un acteur ose et va loin, plus on le respecte, plus on l'admire. Donc ça peut faire peur, il y a plein de gens évidemment qui n'oseraient pas. Mais plus un acteur, surtout s'il y a la distance, s'il y a l'humour, s'il y a le filtre de la fable, plus un acteur ose, plus il est respecté. Mmh.
Ça vous parle ça, Louise?
Oui. Non mais c'est vrai, vous avez raison. C'est le rôle qui fait l'acteur beaucoup, donc de toute façon on est protégé par le rôle.
Mais oui.
Bien. Je vous interromps dans ce passionnant débat parce que c'est l'heure pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission.
Ça veut dire que si je me mets toute nue, on va penser que je suis une grande actrice. D'accord.
Allez, faut que j'aille à la cave. Allez, cette trappe maudite là. Allez. Ah, qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est quoi ce délire là?
Téléchat.
C'est quoi cette lumière rouge? Mais vous faites quoi, monsieur, là, sur mon canapé en velours, là, cul nu?
Allez, fais pas ta timide. Viens sur mes genoux.
Voilà, attendez, moi, je suis juste venu chercher un vinyle, hein. Non, laissez-moi tranquille. Pardon, monsieur. Pardon, madame. Pardon. Attends, il faut même les enjamber. Excusez-moi, pardon, je voudrais juste accéder à mon étagère qui est là-bas. Voilà. C'est quoi ce délire? Henri, mon cochon, mais qu'est-ce que tu fais, là, avec mon cheval? Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Mais c'est n'importe quoi! Mais Henri, descend de cet escabeau tout de suite, là! Bon, attends, je viens te chercher. Allez, viens par là. Allez! Allez! Voilà. Maintenant, tu me laisses travailler, hein. Allez, je voulais mettre un petit Dutron. Voilà, je crois qu'il est par là. Ah oui, juste sous la dame. Pardon, madame. Voilà, il est là. Oui, pardon, il est 5h, Paris s'éveille. Excellent disque. Écoutez ça là-haut.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont raviées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Les 5 heures, Paris s'éveille, excellent disque. C'est Jacques Dutronc en 68, au mois d'avril 68. Il est d'ailleurs presque 5 heures sur France Inter, vraiment, tout ça est magnifiquement calculé. Louise Bourgoin, Pierre Guillois, pop, touche presque à sa fin, mais nous avons un dernier rendez-vous, un petit rendez-vous récurrent. Je vais vous laisser la dernière minute de l'émission pour débattre, discuter, même vous affronter si vous le souhaitez, sur un ring virtuel de pop culture. Ça s'appelle le Pop Ring. Question du jour, vaut-il mieux passer de l'opéra au porno ou du porno à l'opéra ou se contenter de l'apéro?
J'ai pas le rapport avec la pop culture là.
Il est très lointain.
Ah oui.
Non, il est très lointain, mais en même temps, on a parlé de pop-opéra, on a parlé...
Voilà, c'est plutôt votre sujet.
De l'opéra au porno, ben oui, de l'opéra au porno. J'en ai parlé à Nathalie Dessay, d'ailleurs, de ce projet. Bon, on en reparlera. Voilà, c'était...
C'est une actrice porno?
Vous répondez pas du tout à ma question. Je ne sais même pas pourquoi je m'évertue à poser des questions.
Bah moi, je vais voter un verre. En fait, il est 17h, c'est vendredi. Avec modération, on y va, c'est parti.
C'est l'heure de l'apéro. Bah voilà. C'est que ça vous mènera à votre perte, ça.
Ouais, je sais.
Bon, merci Louise Bourgoin. Je rappelle que Les Dents, Pipi et Oli, ça sort mercredi prochain. Merci Pierre Guillois. L'opéra porno, c'est jusqu'au 22 avril au Théâtre du Rond-Point à Paris avant une tournée. Et les dates de cette tournée sont sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Et porno ou pas, n'oubliez pas de vous protéger. Je vous rappelle que le SIDAction, c'est ce week-end. Vous pouvez faire un don en composant le 110 ou en envoyant un SMS au 92 110. Lundi dans Pop Pop Pop. Spécial Ed Banger pour fêter les 15 ans du label. Mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme disent ceux qui font des tutos opéra porno sur YouTube.
Abonnez-vous à notre podcast.
Roselyne Bachelot. La Fraggle Rock.
Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique, Alice Berger, Juliette Delperou, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Fanny Leroy, Claire-Sophie Collet, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Simon Arestat, notre stagiaire.